Revue J'aime lire, numéro 126, juillet 1987, deuxième cassette, deuxième face. L'hôtel du soleil à l'envers, histoire de Corinne Bouvet de Maisonneuve, B-O-U-V-E-T, plus loin D-E, plus loin, M-A-I-S-O-N-N-E-U-V-E. Chapitre 1er, une gare très mystérieuse. Monsieur Printin-Clope, P-R-I-N-T-I-N-C-L-O-P, est un monsieur chauve et sérieux. C'est un homme d'affaires. Il passe son temps à voyager et il est toujours pressé. Ce jour-là, il est tellement épuisé qu'il s'endort dans le train. Une brusque secousse du wagon le réveille. Le train s'est arrêté dans une gare inconnue. Monsieur Printin-Clope se précipite dans le couloir. Il espère trouver un voyageur capable de le renseigner, mais le train entier est désert. Alors il saute sur le quai de la gare. Derrière lui, le train en profite pour l'abandonner. Monsieur Printin-Clope est très contrarié. Le voilà coincé dans une gare minuscule, si minuscule qu'elle semble avoir été construite en ticket de quai. Il frappe à l'unique fenêtre. Bientôt apparaît la tête ébouriffée d'un chef de gare en pyjama. Le chef de gare a d'abord l'air tout étonné de voir un voyageur sur son quai, puis il se jette sur sa casquette et sur sa poinçonneuse pour lui réclamer son billet. « Mais vous auriez dû descendre il y a longtemps !» s'exclame-t-il après avoir tourné le billet dans tous les sens. « Ici, vous êtes à Kapilinos, K-A-P-I-L-I-N-O-S. »« Sapristi !» s'écrie M. Printin-Clope. « Quand passe le prochain train ?»«
Oh, allez savoir !» répond le chef de gare en bâillant. « Peut-être le mois prochain. Pas sûr. »
M. Printin-Clope est très ennuyé car la nuit approche. Il demande au chef de gare de le loger pour la nuit. Mais le chef de gare lève les bras au ciel.
« Vous n'y pensez pas, ma gare est bien trop petite. »
C'est assez vrai, mais M. Printin-Clope insiste. Le chef de gare, lui, il a surtout envie de retourner se coucher. Il marmonne en bâillant.
« Ah ! Il y a bien l'hôtel de travers. »
Un hôtel ? S'écrie M. Printin-Clope. Mais c'est ce que je vous demande depuis le début.
Ah oui, mais celui-là, je n'y coucherai pour rien au monde.
Ah oui, et pourquoi ? Demande M. Printin-Clope.
Parce que la maison est folle.
Comment ça, folle ? S'étonne M. Printin-Clope. Mais le chef de gare ne veut plus rien dire. Il se contente de pointer un doigt en direction de la forêt.
« Et là-bas, Barnabé vous y conduira peut-être pour quelques biscuits. Chez lui, c'est le ventre qui décide de tout. »
Sur ces mots, le chef de gare se penche et pose sur le comptoir un teckel, T-E-C-K-E-L. Tu sais, c'est un chien basset qui a des toutes petites pattes. Un teckel au ventre bien rond.
« Tenez, il est d'accord. »
Le chien s'éloigne au petit trot sur ses pattes courtes en mâchant les biscuits de M. Printin-Clope. Chapitre 2. L'hôtel au bout de la forêt. M. Printin-Clope et Barnabé suivent un sentier sinueux à travers la forêt. Il fait nuit quand ils arrivent à une immense clairière. Au bout d'une allée, M. Printin-Clope distingue la façade délabrée d'une grande maison. « Ah, j'imagine qu'on arrive !» dit-il gaiement à Barnabé, le chien. Mais Barnabé a déjà fait demi-tour. La pluie commence à tomber. Monsieur Printin-Clope se dirige à grands pas vers l'étrange maison. Tout est sombre, sauf la terrasse qui est faiblement éclairée par une torche. Un homme est assis par terre. Il sanglote éperdument.
« Allons bon, qu'y a-t-il ? » demande M. Printin-Clope. « Mais enfin, qui êtes-vous ? Je suis Monsieur de Travers, le propriétaire de l'hôtel.
Allons, calmez-vous, Monsieur de Travers, dit sévèrement Monsieur Printemps-Clope. Vous allez réveiller vos clients.
Mais non, il n'y a plus de clients. Ils partent tous après la première nuit. Ma maison est folle, folle.
Vous voulez dire hanté, avec des fantômes, dit Monsieur Printemps-Clope.
Oh, c'est pire que cela, murmure l'hôtelier. Passez donc la nuit ici, vous comprendrez.
Monsieur Printemps-Clope ne se le fait pas dire deux fois. Bon, dit Monsieur de Travers, je vous installe dans la chambre 12. Le lit est déjà fait, et puis il y a une très belle vue sur la lune. Très bien, répond poliment Monsieur Printemps-Clope, qui a surtout envie de se coucher. Et il s'endort dans la chambre numéro 12, dans un merveilleux lit à baldaquin. Chapitre 3. Un clair de lune étrange. Plus tard, beaucoup plus tard, une lumière blanche éveille Monsieur Printemps-Clope. C'est la lune, une lune ravissante, pleine comme un œuf. Monsieur Printemps-Clope s'accoude à la fenêtre pour mieux l'admirer et il attend tranquillement le matin. Mais le matin ne vient pas. Monsieur Printemps-Clope est de plus en plus éveillé et il commence à avoir faim. Il finit par s'habiller et il part à la recherche de la salle à manger. À peine a-t-il passé la porte de sa chambre qu'il se retrouve dans un hall ensoleillé. Monsieur de Travers l'attend sous la véranda. Il se précipite vers Monsieur Printemps-Clope en balbutiant. Monsieur s'est bien reposé ? Magnifiquement, reconnaît Monsieur Printemps-Clope, mais peut-être un peu longuement. Quelle heure est-il donc ? Monsieur de Travers hésite un instant avant de demander. Ici ? Ah oui, pas à Pékin, répond Monsieur Printemps-Clope d'un ton agacé. Monsieur de Travers hoche la tête d'un air entendu. Ici, sous la véranda, il est 11 heures du matin. Ah, que voulez-vous dire par ici, sous la véranda ? Demande Monsieur Printemps-Clope de plus en plus agacé. Ah, monsieur n'a pas compris, soupire Monsieur de Travers. Compris quoi ? Ce clair de lune était peut-être un peu long. Bien sûr, oui, bien sûr, dit tristement Monsieur de Travers. Je vais vous faire visiter l'hôtel et vous comprendrez mon malheur. Chapitre 4. Des chambres farfelues. C'est alors que Monsieur Printemps-Clope découvre une chose extraordinaire. Chaque pièce de la maison vit à son heure. Dans l'une, il est toujours midi. Dans l'autre, le matin dure éternellement. Une troisième garde la nuit perpétuellement collée à ses carreaux. Et ainsi de suite, d'un bout à l'autre des couloirs. Il n'y a pas une chambre qui soit d'accord avec sa voisine.
Comment voulez-vous remplir un hôtel avec des chambres aussi capricieuses ? Gémit Monsieur de Travers.
Évidemment, c'est très, très curieux, admet Monsieur Printemps-Clope.
Curieux ? S'exclame Monsieur de Travers. Vous voulez dire dramatique ? Il n'y a pas un client qui résiste plus d'une nuit.
Monsieur de Travers, dit Monsieur Printemps-Clope, votre hôtel m'intéresse. Foi d'homme d'affaires, je crois pouvoir vous aider. Vous voulez dire que vous ne vous sauvez pas ? S'exclame Monsieur de Travers.
Sachez, Monsieur de Travers, qu'un homme d'affaires ne se sauve jamais. Il fait des affaires.
Chapitre 5. Le secret de l'hôtel. Sans plus attendre, M. Printemps-Clope se met au travail. Il commence par noter l'horaire de chaque chambre sur son carnet. Puis il demande à M. de Travers. Vous m'avez bien montré toute la maison.
Je crois que oui, dit Monsieur de Travers, sauf la chambre secrète, bien sûr.
Quelle chambre secrète?
Celle que vous voyez là-bas, dit Monsieur de Travers en désignant une porte au fond du couloir. Personne n'a jamais réussi à l'ouvrir. La poignée tourne à vide.
Et il y a un truc alors?
Un secret, oui, mais je ne le connais pas. Ma grand-mère est morte en oubliant de me le dire. Ah, cette maison!
Monsieur Printemps-Clope l'interrompt. Allons, allons. Pour l'instant, l'important, c'est de sauver l'hôtel. J'ai mon idée. Mais avant tout, il me faut un bureau où je ne sois pas dérangé.
J'ai ce qu'il vous faut, répond Monsieur de Travers. La chambre 1. C'est une chambre où le soleil brille la nuit et la lune le jour. Vous pourrez travailler tranquillement pendant que les autres dorment.
Parfait, parfait, dit Monsieur Printemps-Clope. Et pour commencer, votre hôtel ne s'appellera plus l'hôtel de Travers.
Ça n'inspire pas confiance.
Il s'appellera l'hôtel du soleil à l'envers à cause de la chambre 1. Justement.
Chapitre 6. Des clients par dizaines. 3 jours plus tard, M. Printemps-Clope a peint de grandes affiches publicitaires. On peut y lire « Vous êtes épuisé, venez vous reposer dans la chambre lunaire de l'hôtel du soleil à l'envers. » Ou encore « Vous rêvez d'être mince, vivez entre les repas dans la chambre coupe-fin de l'hôtel du soleil à l'envers. »
Bientôt, les voyageurs se pressent dans la gare de Capilinos. Le premier est poète. Il ne peut écrire que la nuit au clair de lune.
Monsieur Printemps-Clope l'installe dans la chambre 12 où il a lui-même passé sa première nuit.
Le train suivant amène un chanteur et sa famille.
À peine arrivé, la femme du chanteur prend M. Printemps-Clope à part et lui confie
« Mon mari chante tous les matins à l'aube. Nous n'en pouvons plus. Soyez gentil de nous donner des chambres à l'abri des petits matins. »
Et M. Printemps-Clope leur donne les chambres 5 et 6 où le soleil se couche mais ne se lève pas.
Le lendemain débarque une princesse gourmande qui ne pense qu'à ses petits déjeuners, puis un ministre qui ne veut pas être dérangé dans son travail par les heures de repas, puis un esquimau qui rêve de lumière après sa longue nuit polaire.
Monsieur Printemps-Clope distribue les chambres selon le désir de chacun.
Très vite, l'hôtel du soleil à l'envers affiche complet. Les trains arrivent si nombreux en gare de Capilinos que le chef de gare décide finalement de dormir en uniforme pour ne plus être surpris en pyjama.
Chapitre 7. Le mystère de la chambre secrète.
Monsieur Printemps-Clope commence à se sentir heureux. Il est maintenant très ami avec Monsieur de Travers et il a même abandonné sa chambre à l'envers des autres pour profiter de sa compagnie. Pourtant, il y a quelque chose qui le tracasse. C'est cette fameuse chambre secrète. Malgré tous ses efforts, il n'est jamais parvenu à l'ouvrir. D'ailleurs, tous les clients de l'hôtel ont essayé de découvrir le secret. Un pompier en vacances a même eu l'idée de dresser une échelle contre le mur extérieur de la maison afin d'entrer par la fenêtre. Mais chose extraordinaire, personne n'a été capable de repérer la fenêtre de la chambre secrète. Nuit et jour, M. Printemps-Clope tourne et retourne le problème dans sa tête. Pas de fenêtre, une porte impossible à ouvrir, l'énigme est exaspérante. Mais voilà qu'une nuit, dans sa chambre, il pousse un cri de triomphe. « J'ai trouvé !» Monsieur de Travers, qui habite la chambre voisine, est réveillé par le bruit. Il accourt aussitôt. Qu'y a-t-il ? Vous êtes malade ?
Pas du tout, s'écrie Monsieur Printemps-Clope en jaillissant de son lit. Au contraire, je crois que j'ai trouvé.
Si la porte de la chambre secrète ne s'ouvre pas, c'est qu'elle est fausse. Si elle est fausse, c'est qu'il existe un autre passage. Et si ce passage est invisible, c'est qu'il s'agit d'un passage secret.
Monsieur de Travers applaudit des deux mains. Et vous l'avez trouvé ?
Ah, non, pas encore, bredouille Monsieur Printemps-Clope. Mais ça ne saurait tarder.
Chapitre 8. À la recherche des plans. Le lendemain matin, Monsieur Printemps-Clope réunit tous les clients de l'hôtel et il leur dit « Je suis certain qu'il existe un passage secret conduisant à la chambre mystérieuse. Je compte sur chacun de vous pour m'aider à trouver les plans. Ils doivent être cachés dans la maison. » Aussitôt, tout le monde se passionne pour les recherches. On regarde partout. Aucune armoire, aucun tiroir n'est oublié. On apporte à M. Printemps-Clope des factures, des recettes de cuisine, des lettres d'amour, mais pas de plan. Le mystère dure. Un jour, M. Printemps-Clope a même l'idée de tapoter les murs avec un marteau pour voir s'il ne dissimulerait pas une cachette. C'est alors que, pour la première fois, il remarque l'étrange papier peint du vestibule. Ces plans, ces fameux plans que tout le monde cherche, sont là, exposés aux yeux de tous. Ils servent de papier peint. Monsieur Printemps-Clope s'empresse d'aller chercher Monsieur de Travers et tous deux suivent à la loupe les courbes du dessin.
Un souterrain, murmure Monsieur Printemps-Clope. C'est prodigieux.
C'est inouï, renchérit Monsieur de Travers. Chapitre 9. Une découverte magique. La nuit venue, les deux amis pénètrent en grand secret dans le souterrain indiqué par les plans. La lampe de poche éclaire un passage étroit, puis un escalier assez raide qui les conduit jusqu'à une porte à gros clous d'or. En s'approchant, ils perçoivent d'étranges battements sourds, comme l'écho régulier d'un cœur de géant.
Toc, toc.
Monsieur Printemps-Clope pousse la porte. Elle s'ouvre. Les yeux écarquillés, les deux hommes pénètrent dans une pièce immense. Les murs sont tapissés d'étoiles qui luisent faiblement. Ce qu'ils distinguent alors est stupéfiant. Là, au milieu de la pièce, se dresse une formidable machine dont les engrenages tournent lentement dans un halo rougeâtre.
Toc, 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 toc.
Oh ! S'écrie Monsieur de Travers, on dirait une horloge géante.
Peu à peu, les yeux des deux hommes s'habituent à la pénombre et la machine apparaît dans toute sa splendeur. C'est bien une horloge, mais une horloge très particulière. 60 cadrans sont disposés en cercle autour d'une énorme grappe de rubis. Ce sont ces rubis, ces pierres précieuses, qui diffuse l'étrange lueur rougeâtre. Chaque cadran est animé par des rouages compliqués qui, en tournant, font scintiller des aiguilles incrustées de pierres précieuses. Monsieur Printemps-Clope aperçoit une plaque en or gravé et il lit l'inscription à haute voix. « J'ai fabriqué cette horloge magique pour le marquis Archibald de Travers, qui a choisi de vivre à l'envers des hommes le 21 mai 1554, signé le très savant Neops, N-E-O-P-S.
« Cette fois-ci, j'ai tout compris !» s'exclame Monsieur de Travers. « Mon ancêtre Archibald était un original. Il avait décidé de vivre la nuit. » Il a donc fait construire cette incroyable horloge qui transformait dans sa maison le jour en nuit et la nuit en jour. Mais le mécanisme s'est usé avec le temps et peu à peu chacune des chambres a commencé à vivre à son heure.
Les deux hommes tombèrent d'accord pour garder le secret de la chambre. Et le lendemain, ils annonçaient la fin des recherches. Le vestibule fut repeint en vert et M. Printemps-Clope décida de s'installer définitivement à l'hôtel du Soleil à l'envers. Il y est toujours et il vit des jours paisibles dans la prodigieuse maison. Fin de l'histoire du Soleil à l'envers.
Voici maintenant la bande dessinée « À la bonne fourchette », c'est le nom du restaurant de la famille Dubouchon. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « La fanfare de l'été ». La dzim, la dzim, la boum, boum, la dzim, la dzim, la boum, boum, la dzim, la boum, ba boum, ba boum, ba boum, la boum, la boum, ba boum, ba boum, ba boum. Voici la fanfare municipale qui défile. Ah, tout le monde est sur le trottoir. Bravo! Ça fait du bien la musique, ça réveille. Et Tom Tom Dubouchon avec sa petite sœur Nana sont sur le trottoir. Bravo! Bravo! La fanfare continue. La dzim la boum ma boum ma boum, la dzim la dzim la boum 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 boum. Il n'y a vraiment rien de mieux qu'une fanfare, dit Nana. Oh, mais on peut en faire une nous aussi, dit Tom Tom. Ah, tu crois? Ça, c'est une bonne idée. Mais oui, dit Tom Tom, pour les instruments. Il n'y a pas de problème. La cuisine de papa, c'est un vrai magasin de musique. Tiens, allons chercher. Tom Tom et Nana ont pris un grand faitout avec son couvercle, deux couvercles de casserole, ça fera des cymbales, un rouleau à pâtisserie qui permettra de servir du faitout comme d'une grosse caisse, une poêle et encore un tas d'autres choses avec des râpes, des écumoires, des trucs qui font du bruit, qui grincent. Ils embarquent tout ça et Gino, le garçon de restaurant, leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous emmenez? Où est-ce que vous emmenez tout ça ?»« Rien, rien, dit Nana. On vous prépare une belle surprise. Oh, je sens qu'on va avoir un succès formidable, dit Tom Tom. » Ils se sont préparés dans leur chambre et les voilà maintenant qui descendent l'escalier. Et en avant la musique!
Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, le soleil brille, brille, brille.
Oh non! Taisez-vous! Dit la maman Yvonne Dubouchon, quand ils entrent dans la salle du restaurant, en faisant tout leur boucan. Oh, ben vous avez réveillé mon bébé, dit une cliente qui est là avec son bébé dans une poussette. Chut, chut, fait une dame, on ne s'entend plus ici. Le bébé continue à pleurer. Pauvre mignon, il a été choqué, dit sa maman.
Un bruit pareil, pour de si petites oreilles, dit le grand-père. C'est vraiment atroce.
Allons, dodo, dodo, mon petit.
Ah, c'est malin, dit la maman, Madame Dubouchon, la patronne du restaurant. Vous allez faire fuir tous mes clients.
Mais maman, on voulait juste faire la fanfare de l'été.
Votre fanfare, allez la faire dehors. Vous voyez bien qu'ici, il y a des bébés.
Qui, mon petit bébé chou, mon tout petit mouri, qui, les.
Alors les bébés, ils pensent qu'à ça. Et voilà Tom Tom et Nana qui s'en vont avec tous leurs instruments. Ils sont vraiment écœurés, ils partent dans la rue. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Ben on est des vieux bébés pleins de soucis.
C'est pas juste. Dès qu'on vieillit, on nous jette à la rue. Et regarde-moi ça, il y en a pour les bébés partout. Des affiches sur les couches, les pampers, sur les nourritures pour bébés, les petits pots, tout ça, rien que des trucs comme ça. C'est dégoûtant, quelle horreur!
Et là, regarde, oh! Un magasin pour les bébés. Au roi bébé, au bébé roi. Il n'y a que des affaires pour les bébés.
Tiens, Nana, regarde les tétines. Ha! Je t'imagine avec une tétine. Et toi, Tom Tom?
Ah ben, je te vois, t'aurais l'air malin, tu ferais agneu, arre, arre, arre.
Et je te vois bien, avec cette salopette rose et ton gros ventre.
Et toi, sur un pot, avec ce hochet.
Allons, laissons ces mochetés, on a des trucs plus sérieux à faire.
Allons, au square, faire notre fanfare. Et Tom Tom et Nana entrent en fanfare au square.
Oh non, il manquait plus que ces deux-là, disent les parents, comme si on n'avait pas assez d'ennuis comme ça. Les bébés pleurent, les autres, il y en a qui tombent par terre dans le sable. Si c'est pour faire du ramdam, allez chez vous, disent les grandes personnes.
Mais on en vient.
Eh ben retournez-y, vous voyez bien qu'ici il y a des bébés.
Mais là-bas aussi.
Oh, si encore ils pouvaient se rendre utiles, ces grands enfants, disent les parents.
C'est trop fort, on va pas se laisser faire, dit Tom Tom.
Eh ben, tu vas voir, nous on sait mieux s'occuper des bébés que eux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la fessée, la sucette. Tiens, et les voilà qui prennent un énorme biberon haut d'un mètre qui était à la porte du magasin d'articles pour bébés. Et ils entrent en fanfare.
Allô, qui veut du bon lolo?
« Miam, miam, biberon !» disent les petits. « Lolo, t'en veux ?» Et voilà, les bébés sont tous à défiler derrière les grands.
Oh, ça alors, ils sont formidables, disent les parents. Fin de l'épisode et fin de J'aime lire numéro 126. Fin de la deuxième cassette, deuxième face. Sur la troisième cassette, tu trouveras le numéro 136 de J'aime lire, avec notamment l'histoire de Kitounette. Change de cassette.